Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui ? Bon bah parfait, moi aussi, et il vaut mieux à la limite. Hein ? Avant de vous partager ce que j'avais sur le cœur ce matin, en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous. Et pour commencer, j'avais à cœur d'introduire en vous racontant une petite anecdote, une petite histoire de famille que nous avons vécue en famille il y a 2 ans. Alors il y a 2 ans on n'était pas 4 comme aujourd'hui, on n'avait pas Léo, mais on était avec Pauline et Alix. Et il y a 2 ans surtout, mon épouse faisait une première véritable expérience avec Dieu. Alors ça a commencé via le petit groupe, le groupe de maison de David et Céline, mais là c'était vraiment une expérience forte et personnelle avec lui. C'est-à-dire que Dieu, pour la première fois, répondait favorablement à ses prières. Et en l'occurrence ici, c'était une prière qu'elle avait faite et qui concernait la relation qu'elle avait, elle, avec son papa. Et elle était tellement heureuse de voir comment Dieu avait agi positivement dans sa vie, qu'elle avait envie de venir en témoigner un dimanche matin ici. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et donc, pour en témoigner, elle avait appelé papa. Elle lui avait dit, voilà, est-ce qu'un dimanche matin ? Et puis, un dimanche avait été fixé. Peut-être donc que vous en souvenez, peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la veille, à la maison, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre et exceptionnel à la fois. Et c'est cette petite chose que je veux vous raconter ce matin. En fait, on était donc à 3 avec Alix, samedi soir, devant la télé, on mangeait, passer un bon moment, et puis je ne sais plus pour quelle raison, je suis monté dans la salle de bain en haut. Et en montant dans la salle de bain et en ouvrant la porte de la salle de bain, qui est aussi la pièce chez nous qui renferme notre chaudière, une forte odeur de gaz qui sort d'un coup et vient dans mon nez. Autant vous dire qu'à ce moment-là, grand vent de panique, c'est le cas de le dire, dans mon esprit, et que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de prendre Pauline et Alix et dire « Ouh là là !» Vite, on va dans la voiture, on va se mettre à l'abri. Et le temps d'aller dans la voiture, je ne vous cache pas que dans ma tête, c'était comme un tourbillon. Plein de pensées, pas positives, négatives m'environnaient. Je me disais, oh là là, c'est pas possible. Si ça sent le gaz, c'est que c'est une fuite. Si c'est une fuite, c'est que c'est grave. Si c'est grave, c'est qu'on ne va peut-être pas pouvoir dormir là ce soir. Si on ne va pas pouvoir dormir là ce soir avec Alix et petite, oh bah, ça va être une nuit horrible. Donc ça veut dire qu'en plus, on va devoir gérer ça demain matin. Donc on ne va pas aller à l'église. Et donc Pauline ne pourra pas partager ce que Dieu a fait de façon merveilleuse dans sa vie. Bref, toutes ces pensées négatives qui viennent et puis qui prennent fin à partir du moment où j'appelle SOS Gaz. Et SOS Gaz vient, le monsieur arrive, vous imaginez, content, 21h30. Il était d'astreinte, le pauvre. Il arrive, non, très gentil, il monte avec moi dans la salle de bain. Et puis en ouvrant la porte... Bon, l'odeur était toujours là, un peu moins forte pour moi, mais elle était en tout cas assez forte pour que cette personne spécialiste quand même dans la matière dise « Oula, ça sent le gaz ici, c'est pas bon signe ». Bon, ça m'a pas rassuré. Et il a pris sa machine, vous savez, il a une machine qui fait le tour comme ça pour détecter d'où vient la fuite. Et il passe la machine sur de lui comme ça, il dit « Attendez, c'est bizarre, je détecte rien ». Il dit « Oh, elle marchait cette semaine, c'est bizarre, c'est pas grave, j'en ai une autre dans la camionnette, je vais la chercher ». Il va dans la camionnette, il revient. Il fait la même chose, rebelote, rien du tout. Un tel point qu'au bout d'une demi-heure d'essai, de recherche, il s'est contenté de me dire « Bon, bah, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aérer la pièce pendant une demi-heure, puis vous reviendrez, vous fermerez la fenêtre, et puis une demi-heure plus tard, vous y retournez, et si ça sent le gaz, vous me rappelez. Dans ce cas-là, on utilisera des moyens plus forts. Si ça sent plus, eh ben, c'est que c'était plus que de peur et que de mal, et puis que tant mieux pour vous, vous avez eu beaucoup de chance. » Et bien sûr, une heure après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir suivi tout son protocole, l'odeur de gaz avait disparu, on pouvait aller se coucher tranquille, et Pauline surtout pouvait raconter le lendemain matin, dans la paix, ce que le Seigneur avait fait de positif dans son cœur. Alors l'histoire peut paraître un peu banale, mais je pense qu'elle révèle une véritable réalité que peut-être vous, comme nous, avions vécu ou avons déjà vécu. C'est comme la sensation, je ne sais pas si vous l'avez déjà eue en tout cas, la sensation que quand vous tracez votre vie avec le Seigneur, à des moments précis, clés souvent, il y a comme ces perturbations, ces influences négatives qui viennent sans cesse vous perturber et vous empêcher de suivre que le chemin que Dieu a fixé pour vous. Ou pour reprendre une autre image, c'est comme si nous étions sur un chemin tout droit et que des perturbations, des influences négatives venaient nous faire tanguer, basculer avec un seul but finalement, nous faire dévier du cap que Dieu a fixé pour notre vie. Et cette histoire, plus ces questions que je vous propose maintenant, m'ont fait penser à une vidéo sur laquelle je suis tombé il y a peu de temps et que j'aimerais partager avec vous et qui relate d'un exploit réalisé par un Américain et qui m'a fait faire le lien en tout cas avec ce que je vous ai partagé ce matin. Cette vidéo, je vous propose, elle dure 1 minute, de la regarder ensemble et on en parle juste après. Voilà. Je vous avais promis, ça ne durait pas longtemps, mais je pense que c'est assez parlant quand même. Donc ici, en fait, cette vidéo nous parle d'un Américain, qui n'est pas qu'un Américain, il est également funambule, et il a un prénom, il a un nom, il s'appelle Nick Valanda. Et en fait, il est également chrétien, et cet Américain funambule a donc réalisé l'exploit, comme vous le voyez d'ici, de traverser le Grand Canyon aux États-Unis en marchant uniquement sur un fil. Et avec juste comme aide ce qu'il appelle son balancier, hein, son bâton, et rien d'autre, c'est-à-dire pas d'attache. Ça veut dire qu'un coup de vent, quelqu'un dans sa famille qui pousse un cri d'un coup, ou quelque chose, une petite perturbation, et il pouvait tomber. Et s'il tombait, malheureusement pour lui, bah, c'était la mort. Dieu merci, et heureusement, ce ne fut pas le cas. Et d'ailleurs, il en a fait plein des exploits comme ça. Mais cette vidéo m'a surtout fait un petit peu m'intéresser à cet individu, et j'ai notamment regardé un petit peu sur Internet tout ce qui se dit sur lui, et notamment les interviews qu'il a données. Alors pas à chaud comme on a eu ici, on a eu une interview à chaud, mais plus à froid. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, pour chacun de ses exploits comme celui-là, les journalistes lui posent toujours la même question. Et la question qu'ils lui posent, c'est « Mais Nick, quel est ton secret ? C'est fou, tu as l'air sûr de toi, tu marches sans attache, alors que finalement, tu joues avec ta vie. Quel est ton secret ?» Et à chaque fois, sa réponse est toujours la même. Et alors, en fonction des versions, ça varie toujours, mais je l'ai résumé en une seule phrase qu'on retrouve juste après. D'ailleurs, je peux y aller, mais qu'on retrouve juste après. Sa réponse à chaque fois à cette question, c'est... Oh, je pense qu'on sait... Ouais. Je n'ai pas de secret. La seule chose qui m'importait à chaque fois était de marcher tout droit, de garder le cap, coûte que coûte. Et cette histoire immédiatement et cet exemple de Nick Valanda m'a rappelé un verset que l'on retrouve juste après dans Proverbe 4 et qui dit « Fais une route toute droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres, ne te laisse dévier ni à gauche ni à droite. » Vous l'aurez peut-être compris ce matin, là où je veux en venir avec vous, mon objectif pour les un peu plus de 20 minutes qui restent, c'est ensemble de voir comment nous pouvons dire stop à tout ce que l'on appellera, et que je définirai après, les influences négatives, pour qu'avec Dieu, nous puissions garder le cap. Amen. Et pour commencer, donc, comme je vous l'ai dit, il me semblait important de définir avec vous ce que j'appellerais, tout au long du temps qui reste ensemble à partager, les influences négatives. Et au lieu d'en faire une définition générale, je trouvais, il me semblait intéressant et important de prendre peut-être des cas concrets où ces influences négatives peuvent se révéler avec l'envie, au fond, que vous puissiez au moins vous référencer, vous retrouver parmi une de ces situations. J'ai pris trois situations concrètes qui déboucheront sur trois histoires de la Bible que l'on analysera ensemble rapidement après. Et la première de ces situations, c'est quand on a une attente particulière à un moment de notre vie. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Alors dans ce cas-là, sachez-le, et on le verra après, les questionnements, ce besoin de voir Dieu agir vite, si possible, et comme on l'imagine surtout, peuvent être ce qu'on appellera donc des influences négatives qui nous empêchent parfois de garder le cap que Dieu cherche à fixer pour répondre à cette attente. Deuxième situation, quand on vit une période faste spirituellement. Peut-être que c'est votre cas ce matin, dans ce cas-là je dis « Amen, gloire à Dieu ». Mais attention dans ce cas-là quand même, tout de même. Et on le verra après, les situations ou pensées déstabilisantes qui arrivent, souvent sans qu'on s'y attende, peuvent être sans cesse des influences négatives qui nous font parfois dévier l'espace d'un instant du cap fixé par Dieu, en captant toutes nos forces et notre attention. Et troisième situation, quand on veut vivre pleinement la vision de l'Église. Peut-être que c'est votre cas ce matin, et là encore j'y amène. Mais dans ce cas-là, attention, nos expériences douloureuses du passé ou nos simples intuitions du présent peuvent être des influences négatives qui nous empêchent parfois d'entrer dans la vision, dans le cap fixé par Dieu pour nous, pour son Église. Alors vous l'aurez remarqué, à travers, donc en gras ici, j'ai représenté tout ce qui pourrait être ce qu'on appellera donc les influences négatives. Ces influences négatives peuvent dépendre de plusieurs choses. La première, et je pense que vous y pensez à chaque fois, quand ça arrive, on dit « Ah, c'est l'ennemi qui nous attaque !» Et c'est vrai. Elles peuvent venir de l'ennemi, de Satan. Mais on le voit ici dans la liste qui est donnée, aussi bien ça peut venir de l'ennemi qu'aussi bien ça peut également venir un peu de nous, les questionnements, etc. Dans les deux cas, j'ai envie de dire peu importe. Parce que j'ai une bonne nouvelle, on a une bonne nouvelle, Dieu nous a donné une bonne nouvelle. Si elles viennent de Satan, Jésus a vaincu Satan à la croix, n'est-ce pas ? Amen. Et si elles viennent de nous, on le verra après dans les histoires que j'ai sélectionnées, Dieu nous a donné des armes pour éradiquer ces influences négatives quand elles arrivent. Amen. Alors, je vous propose d'attaquer les histoires ensemble. Et la première, on la retrouve dans Jean 14, versets 3 à 14. Et elle va illustrer la situation concrète numéro 1, quand on a une attente particulière à un moment donné de notre vie. Jean 14, versets 3 à 14, on va donc voir comment éradiquer les influences négatives qui pourraient arriver à ce moment-là. Je vous propose de la lire ensemble, cette histoire. Jésus dit, « Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Alors Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers Dieu le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffira. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Alors, resituons un petit peu le contexte de cette histoire. On est donc à la fin du ministère de Jésus. J'ai envie de dire quelques heures avant ce qu'on appellera la passion du Christ, c'est-à-dire la crucifixion de Christ, la résurrection de Christ, qui est le fondement même de notre foi aujourd'hui et ce qui nous réunit d'une certaine manière ce matin. Et Jésus se retrouve finalement une dernière fois avec ses disciples. Et il profite de cette dernière fois pour leur passer un petit peu ses dernières recommandations, ses dernières indications, bref, le chemin à suivre quand il ne sera plus là, d'une certaine manière. Le cap à suivre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les disciples, dans cette situation, ils ne l'aident pas vraiment. Du moins, les réponses et le chemin que Dieu leur montre, on a l'impression en tout cas qu'ils ont un peu du mal à le comprendre. Et on le voit ici à travers deux de ses disciples, Thomas et Philippe, qui lui posent une question. Pourquoi ils leur posent une question ? Parce que la réponse, le speech un petit peu que Jésus leur fait avant, ne leur convient pas vraiment. Pour Thomas, à travers sa question, on voit que ce qui ne lui convient pas, c'est que Jésus semble, selon lui, ne pas être assez précis, assez clair. Il aimerait que ce soit un peu plus concret, peut-être. Et pour Philippe, c'est plus le fait que la indication que Jésus lui donne n'est pas forcément comme celle, enfin, la manière dont il s'attendait le plus, la manière dont il le souhaiterait. Il aimerait que Jésus fasse autre chose, fasse le monde d'une autre manière. Donc, bref, dans cette situation où j'ai envie de dire, les disciples, on le voit ici, une attente dans leur vie par rapport à ce que Jésus leur partage. On retrouve les influences négatives citées précédemment. Les questionnements, cette envie de voir Jésus agir vite et comme il le souhaite. Et ces influences négatives, à ce moment de l'histoire en tout cas, leur empêchent d'entrer pleinement dans le cap, dans la vision, dans le chemin que Jésus tente de fixer pour eux. Mais Dieu merci, et Jésus merci à lui, dans la suite de cette histoire, nous donne des clés pour justement, alors ici c'est pour les disciples, mais qu'on pourrait s'approprier à nous-mêmes, pour justement chasser ces influences négatives à ce moment-là de notre vie. La première des clés, on la retrouve dans la réponse qu'il donne, la première réponse à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». À travers cette réponse que Jésus fait à Thomas, on peut se poser la question, alors elle est forte cette réponse, elle résume un peu ce qu'est Jésus, mais derrière cette réponse, Jésus, je pense, il a un objectif clair, il a une autre réponse sous-entendue, c'est « Thomas, lâche prise, tu as en face de toi la personne qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est tout, pourquoi te poses-tu autant de questions ?» Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, ici, Jésus nous invite dans ces moments-là, quand nous avons ces questionnements, à avoir un certain lâcher-prise et à fixer nos yeux sur celui qui est en face de lui. Alors ici, Thomas, il avait Jésus en face de lui, mais nous, dans notre vie, nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Deuxième chose, Jésus le dit, bon, peut-être que ça ne vous suffit pas. Dans ce cas-là, il le dit ensuite au verset 14, demandez. Même si vous avez un doute, demandez et quand vous demanderez en mon nom, moi je le ferai. Faites des prières. Alors je sais, je vous vois dire, vous dites, ouais, mais bon, si je demande par rapport à une certaine attente que Jésus me réponde, je suis le chemin, la vérité, la vie, concentre tes yeux sur moi, il a déjà sa réponse. À quoi ça sert de prier? Ben, rien que déjà prier, quand vous avez une attente dans votre vie, quand vous priez Dieu, ben, cette attente, vous la remettez entre les mains de Dieu et non entre les mains de l'ennemi. C'est ce qui fait notre différence, nous, et qui doit faire notre différence entre nous et ceux qui vivent dans le monde. Ne l'oubliez pas. Et enfin, dernière chose, Jésus le dit un peu plus tôt au verset 11, même quand vous êtes dans cette période, dans cette attente et que ça ne vient pas ou que ce n'est pas comme vous voulez, repensez aux œuvres qui se sont produites. Alors ici, les disciples, ils en ont vu des miracles. Donc c'est ce qu'il leur dit, mais même si vous avez des doutes, repensez à ce qui a été fait. Alors avec mon épouse, on fait quelque chose depuis octobre dernier, c'est qu'on tient un petit carnet et on s'engage toutes les semaines à noter un souvenir, soit récent ou soit plus passé, d'une chose que Dieu a fait de façon forte dans notre vie. Alors au début, on s'est dit, bon, ça va, on va tenir quelques temps, et puis peut-être qu'on n'aura plus d'idées à un moment donné, mais Dieu est bon. En fait, on se rend compte que Dieu agit tout le temps dans notre vie, et ça nous permet en tout cas, nous, de nous en rendre compte d'une certaine manière. Et j'ai envie de dire, quand il y a des attentes, quand c'est un peu difficile, quand c'est un peu plus compliqué, et qu'on aimerait que Dieu agisse, mais qu'il ne le fait pas, il nous suffit de reprendre ce carnet, d'ouvrir et de revoir ce que Dieu a fait dans nos vies. Et là, on se rend compte, on garde la foi, on garde l'espoir. Amen. Et ces influences négatives s'en vont. Deuxième histoire, dans Matthieu 14, versets 22 à 33, et on va voir cette fois comment éradiquer les influences négatives quand on vit une période faste spirituellement. Et ce n'est pas parce qu'on vit une période faste spirituellement qu'on n'a pas de ces influences négatives qui peuvent arriver. Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En les voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés, ils dirent « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur !» Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Alors Jésus lui dit « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et il le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Donc ici, resituons le contexte de cette histoire. On est donc là en plein dans le ministère de Jésus. Comme je disais, on est dans une période faste spirituellement. Du moins, les disciples, si on regarde autour de Matthieu 14, des miracles, il y en avait à l'appel. Plein. Véritable période faste spirituellement pour les disciples et d'une certaine manière aussi, bien sûr, pour Jésus. Mais restons ici sur les disciples. Et qu'est-ce qui arrive dans cette période-là? Eh bien, pour la première fois, ou du moins une des premières fois, quelque chose d'assez fort. Jésus se met à l'écart et laisse un peu les disciples tout seuls. Donc, les disciples sont séparés de leur guide, de celui qui les accompagne depuis quelque temps. Et comme par hasard, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Une tempête. Une tempête, bref, vous l'aurez compris, quelques influences négatives, représentées ici par la tempête, mais aussi par la cessation des disciples qui disent à un moment, ils ont l'impression même de voir un fantôme. Pour vous dire, c'est vraiment en panique totale. Bref, dans cette situation où les disciples, dans cette période où les disciples vivent une période faste spirituellement, nous retrouvons les influences négatives citées précédemment. Et ici, ce sont les événements négatifs qui arrivent souvent sans qu'on s'y attende, la tempête, mais également les pensées négatives qui peuvent venir perturber notre esprit et qui sont représentées ici par la sensation qu'ils ont, c'est de voir un fantôme. Et qui les empêche de garder le cap, la barque qui s'en va, que Dieu avait fixée pour eux. Mais Dieu merci, et Jésus aussi, dans cette situation, il nous montre des techniques, des méthodes pour éradiquer, pour faire face à ces influences négatives dans notre vie. Et ces clés, on les retrouve à travers un homme, surtout, qui se démarque ici, c'est Pierre. Pierre le disciple, Pierre le funambule, j'ai envie de dire, c'est le Nick Valanda de l'époque. Il s'est dit, je suis chaud, je vais marcher sur la mer. Oui, c'était un peu le Nick Valanda de l'époque, le funambule de l'époque. Mais à travers son attitude, on a une première clé. Déjà, face à cette tempête, lui, dans la barque, il décide de faire quelque chose d'autre. Il décide de passer au-dessus de la barque. Il décide d'aller au-delà même de la tempête, de la difficulté. Et c'est une première clé que nous pouvons prendre pour nous-mêmes. Je sais que c'est difficile quand on a des tempêtes qui arrivent dans nos vies, on a souvent envie de dire « Ah, Seigneur !» Non, lui, il passe au-dessus. Il passe au-dessus pour faire quoi ? Pour avancer vers qui ? Vers Jésus, pour garder les yeux fixés vers Jésus. D'ailleurs, tant qu'il garde les yeux fixés vers Jésus, vous l'aurez compris, il avance, il a la foi et il marche sur l'eau. Mais à partir du moment où toute cette tempête, où toutes ces influences négatives reviennent, où il refait, il se souvient qu'il y a le vent, qu'il y a la tempête, il repense à tout ça, à partir de ce moment-là, il replonge. Mais j'ai envie de dire, troisième clé importante, même si vous replongez, parce que ce n'est pas facile dans ces moments-là d'être toujours là, de dire « j'ai la foi, j'avance », Jésus est toujours là. Et quand on crie à lui, on le voit, il le saisit. Amen. Troisième histoire. On la retrouve donc dans Nombre 13, on va jongler entre le chapitre 13 et le chapitre 14, et il va illustrer la troisième et dernière situation, comment éradiquer les influences négatives qui peuvent arriver quand on veut vivre pleinement la vision de l'Église. Alors on en a parlé récemment de la vision de l'Église, donc ça tombe bien, ça fait le lien. Mais c'est quand même super important, on va le voir à travers cette histoire, c'est très bien illustré. Au bout de 40 jours, les 12 envoyés revinrent, après avoir exploré le pays. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit à Moïse, « Nous sommes allés dans le pays promis par Dieu où tu nous as envoyé, vraiment il ruisselle de lait et de miel et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant, ses villes sont fortifiées et très grandes, nous y avons même vu des descendants d'Anak. » Caleb, un des 12, imposa le silence au peuple qui faisait face à Moïse et dit « Allons-y, montons, prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier et le peuple pleura cette nuit-là. Tous les fils d'Israël récriminèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit « Ah, si nous étions morts au pays d'Égypte ou si nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il vers ce pays ? Pour que nous tombions par l'épée, nos femmes et nos enfants deviendraient un butin. Ne serait-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des fils d'Israël. Josué et Caleb, qui parmi d'autres avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Puis ils parlèrent à toute la communauté des fils d'Israël et ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est très très bon. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens du pays. » Nous n'en ferons qu'une bouchée, leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux et le Seigneur est avec nous, ne les craignez pas. Alors resituons ici le contexte, on n'est plus dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament et on se retrouve avec le peuple hébreu, le peuple de Dieu hein, qui a donc quitté l'Égypte sous la houlette de Moïse, vous vous souvenez, la mer ouverte en deux, il passe et il se retrouve dans un désert. Mais Dieu conduit ce peuple, conduit à une vision et à la vision d'une terre promise pour ce peuple-là. Et ce qui est bien ici, c'est que le peuple est à deux doigts d'entrer dans cette vision, dans cette terre promise par Dieu. Et Moïse le sait, il envoie pour ça 12 envoyés, 12 missionnaires, 12 sentinelles. Allez voir, d'accord, il leur demande, allez voir, faites-moi le rapport, est-ce que c'est bien le pays qui ressemble à ce que Dieu nous a promis ? Et ils reviennent avec une bonne nouvelle. Ce pays ruisselle de lait et de miel. Il y a des beaux fruits, bref, on est dans la vision. Mais il y a un mais. Et c'est ce mais qui va attirer toute l'attention du reste du peuple et d'une partie des envoyés, 10 sur les 12, qui vont dire, mais il y a un gros problème. C'est qu'il y a des villes fortifiées, c'est qu'il y a déjà des gens qui vivent là-bas et qui sont puissants et armés. On ne peut rien contre eux. Et on voit à partir de ce moment-là, ce problème présent qui va tout remettre en cause, qui va être le hic total, le peuple va totalement pleurer et va même se dire à un moment donné, retournons en arrière, il va même regarder en arrière et se dire, par rapport à son expérience passée, si on va là-bas, on va être encore esclave comme on l'a été en Égypte. Non, c'est pas possible, on veut pas. On retourne en arrière, limite. D'accord ? Bref, dans cette situation où on a, ici on voit le peuple qui veut entrer pleinement, parce qu'il y a cette soif quand même d'aller dans le pays promis, dans la vision que Dieu a prévue pour eux, eh ben, on retrouve les influences négatives citées précédemment. Ces influences négatives ici, c'est ressenti présent, ah, c'est impossible à faire. ou aussi les expériences douloureuses du passé, et en l'occurrence ici c'était le souvenir de l'Égypte, qui leur empêche finalement d'entrer dans la vision, dans le cap, de terminer ce que Dieu a prévu pour eux. Mais Dieu merci, à travers deux hommes, ici, deux de ces 12 envoyés, il nous montre les clés à avoir pour éradiquer ces influences négatives et reprendre le chemin que Dieu a fixé pour nous. Ces clés, c'est donc à travers deux hommes qui s'appellent Josué et Caleb. Ils étaient parmi les 12 qui ont été dans le pays, mais eux, par rapport aux 10 autres, ils disent « Bon, ok, c'est comme ça, mais il faut y aller. » Et pourquoi il faut y aller ? Parce que premièrement, il leur invite à ne pas regarder en arrière. Et pour ne pas en regarder en arrière, il leur dit surtout « Souvenez-vous des promesses. » Et ce pays, tel que nous l'avons vu, il répond à toutes ces promesses. Alors se souvenir des promesses, nous, d'une certaine manière, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est être sensible à toutes les prophéties qui ont pu être partagées, au Saint-Esprit, tel qu'il le parle aujourd'hui, mais également à bien connaître la parole de Dieu. Amen. Et puis surtout, il y a cette phrase qui, moi, me marque énormément, qu'on retrouve dans Nombre 14, verset 8, cette phrase qui dit « Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et il nous donnera. » Si la vision que Dieu donne, si la vision dans laquelle vous voulez entrer est une vision que Dieu a établie, alors sachez-le, rien ne pourra l'empêcher de la réaliser. Si vous avez en tout cas la foi et la force pour l'affronter. Même pas les petits problèmes, parce que des fois on peut se dire, si je vais dans cette séance, ouais c'est bien, c'est que là, mais je vais avoir des problèmes. Non, Dieu éradiquera les problèmes. Amen. J'en viens à la conclusion. Et pour conclure, j'ai voulu reprendre l'image de Nick Valanda et du funambule sur son câble. Si on regarde bien finalement, quand on regarde bien le funambule, il réunit à lui tout seul sur son câble toutes les influences négatives qu'on a vues dans nos trois histoires précédemment. On retrouve les questionnements qui étaient dans la première histoire, qui peuvent représenter, en tant que funambule, les doutes, la peur de se rater, la peur de tomber, la peur du vide. Vous avez vu cette image, quand on voit qu'il marche au-dessus, c'est quand même assez impressionnant. Mais également, les tempêtes soudaines qu'on a signalées dans la deuxième histoire et qui peuvent représenter les conditions météo, le vent. Si vous avez entendu son interview, il dit qu'il y avait beaucoup de vent. Donc, les autres influences négatives. Mais également, notre histoire, notre présent, notre passé, représenté ici par le décor, le contexte, l'œil de la famille. Parce qu'on peut voir d'autres vidéos, ils avaient mis une petite tribune pour accueillir toute sa famille. Et je peux vous dire, ils n'étaient pas bien. Hein. Il y en a qui pleuraient. Donc, toutes ces choses-là qui représentent des influences négatives qui n'ont qu'un seul objectif, finalement, le faire tomber. Mais lui, le funambule, qu'est-ce qu'il a ? Il a son bâton d'équilibre. C'est sa seule aide, j'ai envie de dire, extérieure qu'il a avec lui et qui lui permet de garder l'équilibre et qui peut représenter la parole de Dieu. C'est notre équilibre, la parole de Dieu, la Bible. Mais également, on le voit dans une autre vidéo, la seule chose qu'il fait, Nick Valanda, en plus de marcher, c'est qu'il parle dans sa bouche. Il dit quelque chose. Alors, j'ai pas fait un anglais, mais bon, là, j'ai bien compris. La seule chose qu'il dit, c'est merci Seigneur. Tout au long de son chemin, tous les 3-4 pas, il dit tout le temps merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il le prie. Et enfin, il le dit dans son interview, il reste concentré, c'est son seul objectif, aussi bien physiquement que psychologiquement. D'une certaine manière, il fait une bulle autour de lui-même pour que rien ne l'entraîne. Une bulle avec lui-même, mais bon, nous, on ne parle pas avec nous-mêmes. Nous, ce que nous avons au fond de notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Et d'une certaine manière, il nous apprend aussi à travers cette histoire à rester à l'écoute et avec le Saint-Esprit. Amen. Et ainsi, avec ces trois armes, j'ai envie de dire, il garde le cap et il réalise l'objectif qui s'était fixé lui, mais nous, le cap que Dieu nous fixe dans notre vie. Amen. Alors, je terminerai juste sur une petite expérience parce que c'est rigolo. C'est tout frais de ce matin. Je ne voulais pas le rajouter, mais je vais le dire. Voilà, ce matin, vous savez, des fois, comme on a pu le dire, ce matin, vous savez que je prêchais. Et cette semaine, avec mon épouse, elle me fait là toujours la remarque. Elle dit, quand tu prêches, il y a toujours des trucs qui se passent dans notre semaine. C'est vrai qu'on a vécu une semaine difficile, mais faite d'influences négatives, mais on a su passer au-dessus. Merci Seigneur. En suivant, le Seigneur est bon et il nous dit, voilà Geoffrey, je te donne ces armes, maintenant mets-les en pratique déjà pour ta propre vie. C'est vrai, si je ne les mets pas en pratique pour ma propre vie, comment ça pourrait vous impacter ? Et ce matin, je suis parti courir à 9h, un peu plus loin, et je ne sais pas pourquoi, alors que je louais Dieu, Je levais les mains peut-être, non, il vaut mieux pas. En voiture, j'ai accroché une voiture dans un parking. Bref, voilà. Mais j'ai envie de dire merci Seigneur parce que j'ai la paix. Et à partir de ce moment-là, pourtant, ceux qui me connaissent, mon épouse me connaît. Avant, j'aurais pleuré. Je rentre, je suis pas bien. Mais non, c'est pas grave. C'est que du matériel. Dieu est bon. Cette influence négative, en tout cas, j'ai su l'appliquer pour ce que je vous ai dit pour l'éradiquer. À plus forte raison, je vous invite vraiment à le prendre sur votre cœur. Amen. Je te remercie, Seigneur, de t'être révélé dans ma vie. Parce que, Seigneur, avec toi, on ne s'en rend pas compte, mais Seigneur, on a un avantage fou. C'est justement toi, Seigneur. Et tu nous donnes, Seigneur, des armes, tu nous donnes des clés importantes à saisir. Et Seigneur, je veux les saisir ce matin pour faire toute la différence dans ce monde, faire toute la différence également dans ma vie. Et Seigneur, dans notre vie, que nous soyons chrétiens ou pas, nous avons des difficultés. Mais nous avons la chance de t'avoir. Alors Seigneur, que nous puissions ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Seigneur, saisir les clés que tu nous as données, Seigneur, pour éradiquer ces influences négatives quand elles viennent. Ah, certes, elles viendront parce qu'il y en a un qui a envie de s'amuser de le faire ou parce que nous sommes humains malgré tout. Mais toi, Seigneur, tu nous as donné les clés pour faire en sorte qu'elles ne nous impactent pas. Alors Seigneur, ce matin, je veux être plus proche de ta parole, plus proche de ton Saint-Esprit, être encore plus un homme de prière. Et je prie, Seigneur, pour que ton Église le soit également, afin que, Seigneur, nous puissions vivre sereinement le chemin et le cap que tu as fixé pour nous et pour ton Église. Amen, Seigneur. Gloire te soit rendue.
Amen.
Amen.